이렇게 멤버들 좀 이제 되게 그리고 이제 알아 이쪽에 비슷한 것들 보시 어플 메이크업 대상으로 넣어 주면 근데 제가 수준이 한 번씩 보상으로 그 정보가 지금 보내 보내는 거 보고 있어 이제 빼와 이제 한 번씩 해.
Non, la vraie question, c'est comment vous passez de 4 mois, d'un profit sur 4 mois, quel est le calcul que vous faites pour calculer le profit sur 12 mois? Je crois que c'est ça que vous demandez, en fait. Vous avez un retour sur 4 mois, hein, vous faites la différence entre ce que vous avez investi au départ et ce que vous avez investi, et comment ça passe à 12 mois? C'est ça que vous demandez.
Oui, il va répondre à une question.
Alors, si si sur 4 mois, il fait un profit de 10%, je calcule quel taux de profit il fait dans un mois et je multiplie par 12.
Comment est-ce que vous calculez le taux de profit qu'il fait en un mois?
Donc, je divise 10 par 4.
D'accord, mais déjà, c'est pas comme ça qu'on fait normalement.
D'accord.
Il faut prendre 1,10, se mettre à la puissance 1 quart et retirer 1. Pour que ce soit juste. Alors, ça compte pas si c'est des choses à 10%. Et si c'est des choses à 10%, vous allez avoir des choses à carrément. Donc déjà, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que si vous faites ça, imaginons que ça vous donne le truc exact, je comprends pas que vous avez des différences systématiques. Il n'y a pas de raison d'avoir des différences systématiques de rentabilité dans le tableau 2. Remettez-vous le tableau 2.
La deuxième question, alors là, je traduis parce que c'est un économiste, donc on n'en revient à rien. Je dis ça, je n'énonce pas, donc c'est toujours qu'on traduit. Et alors, en fait, ce qu'il dit, c'est que si, même en lissant effectivement le calcul, il y a un problème de puissance sur les intérêts, plutôt que de division 1, c'est vrai que sur 10%, ça va être des virgules. Donc ça ne devrait pas, en fait, ce que ça ne devrait pas faire, ça ne devrait pas produire des trucs de ce genre-là.
Oui.
Parce que là, là ça fait vraiment un passage de 25% à, on doit être à 18% de profit, c'est quand même très étrange, comme énorme. Rapport de différence de profit, là ça pose un problème. Ça nous pose question.
Ça c'est lié aux variations.
C'est lié aux variations. Les cours de change, ça c'est évident.
Ah ben,
il peut y avoir des variations.
D'accord, mais en moyenne, il n'y a pas grand différence que les profits pour les vendants et les pour les ressources.
Si, parce qu'il y a des ressources.
C'est pourquoi il ne revient pas systématiquement si c'est carrément pas du même ordre à ce point-là.
Alors pour revendre un verre, il faut qu'il y ait plusieurs conditions requêtes. D'abord, il faut trouver quelqu'un qui va acheter des lettres à court terme. Et c'est pas toujours évident d'en trouver à un moment très précis des acquéreurs pour des montants très précis. Et puis, lorsqu'ils spéculent sur une hausse des cours du change à venir, dans le mois prochain, dans les 2 mois prochains, à Paris, sur une hausse des cours du change, il va penser que c'est plus profitable de faire un aller-retour que de revendre sur place.
Oui, mais donc, c'est dans le tableau, ça n'a pas l'air d'être le cas.
Non. Normalement il préfère de revendre à Anvers. Parce que le risque aussi est moins aléatoire. Puisque une opération aller-retour implique d'abord une deuxième lettre de change. Donc la lettre de change qui va être tirée de Paris sur Anvers. Donc c'est toujours un risque, parce que le tirer et le tireur peuvent faire bon coup, par exemple.
Je comprends rien, mais du coup, ce tirant aussi, il n'y a vraiment aucune raison de faire la lettre. C'est plus risqué par rapport au moment.
Lorsqu'il n'a pas le choix à Anvers, il fait un aller-retour.
Donc c'est une raison qu'il n'a pas le choix.
Et lorsqu'il spécule, on a vu ici, On a vu ici qu'il spécule très bien sur des hausses à Paris. Sur les dettes à Paris.
Alors, ce qui est curieux là-dedans, c'est que ce qui passe de la spéculation, c'est sur la lecture. C'est-à-dire qu'on pourrait penser qu'il faut faire de l'arbitrage. Bon, alors c'est vrai qu'avec le système qu'ils utilisent, c'est pas exactement comme ça que ça fonctionne. Ils manquent d'aide, évidemment, ça marche en soi. Et ils pourraient imaginer qu'il a d'autres études de spéculation sur les jeux triangulaires de change, ce serait évidemment probablement plus rentable. Mais il y a une deuxième question qui est posée sur cette histoire de spéculation, c'est si on ne connaît pas le coût de l'intérêt de l'argent sur le marché en quelque chose, bien évidemment, là, il va raisonner en termes d'avantages comparatifs. Donc, je vais dire, et c'est plus intéressant, et ça, on voit ça bien pour les couleurs en cours. C'est ce qu'ils font, les couleurs en cours. Ils préfèrent finalement prêter de l'argent sur la place, sur le constant, etc., comme ils s'invitent pas mal de choses, de prêts, de risques, on connaît mieux les acteurs à ce moment-là, donc il y a plus de sécurisation. Donc, on pourrait imaginer qu'ils se posent la question, effectivement, pour en mettre, de la même façon. C'est-à-dire, est-ce que ça ne vaudrait pas mieux, finalement, de prêter de l'argent à un certain nombre d'envers soi qui en ont besoin, plutôt que de s'amuser à ce petit jeu spéculatif. Mais alors là, à mon avis, ça met en jeu quelque chose qui est beaucoup plus compliqué, qui est l'ensemble de la stratégie d'entreprise, et en particulier le fait qu'ils travaillent aussi, ils travaillent sur les marchandises, mais surtout ils travaillent énormément à la commission. Donc, travaillant à la commission, au fond, s'ils sont contents par rapport à la commission, je pense que c'est probablement certainement pas la majorité de ces affaires.
Non, c'est une minime de
cette affaire. Donc, un minime, mais un minoré. Et à la position, au bout du compte, les risques, évidemment, sont beaucoup plus limités. Donc, il peut parfaitement, au contraire, non pas spéculer, mais jouer sur ce système, effectivement, extrêmement courant de circulation de l'air, dont on n'arrive pas bien à voir, au bout du compte, comment distinguer plus l'intermoment, et ça m'a paru très intéressant, on voit bien comment Paris joue le rôle de place financière pour les Bordelais dans un système commercial qui est un système finalement mixte de change instrumental servant à l'événement et de change spéculatif servant à l'enrichissement par la source.
Normalement, ça va faire à l'égalité des taux de
d'envoi et de retour de l'air qui, bon, jamais n'est pas enfin, en termes de profit absolument négligeable, puisque vu les taux qu'il a donné. Alors c'est là qu'on peut comparer le taux d'intérêt sur la place d'Anvers. J'ai donné 97 à Anvers, je reçois donc 4.1 à Anvers. Là on peut faire des calculs assez précis et comparer au taux au cours de l'argent, au taux du...
C'est 6%, donc il prête et il emprunte à 6% par an.
Là on peut faire véritablement les comparaisons.
Et les taux qu'il en tire de ces spéculations sont supérieurs.
Voilà, ça vaut le coup. Donc on voit qu'il n'est pas, quand même, il est un opérateur quand même pas sûr, on peut arriver, il a un comportement relativement rationnel.
Puis juste pour revenir aussi aux autres exposés, en même temps, quand tu dis que c'est a priori moins risqué et qu'il connaît mieux les gens sur place, moi je dis qu'il faut en savoir plus sur les circonstances, parce que justement quelqu'un qui fait plein de commerce international et de commission, c'est tout à fait possible qu'il connaisse très bien les gens ailleurs et qu'il ait les moyens de...
Clairement à Paris.
De récupérer son argent à l'us plus ailleurs qu'avec un petit envers qu'on ne connaît pas.
Clairement à Paris, oui, on peut ça. Clairement à Paris, il y a pas, je pense qu'il ne prend pas n'importe quelle lettre. Enfin, il n'achètera surtout n'importe quelle lettre.
Il y a le problème des choix de lettres aussi.
Mais un acteur sûr n'est jamais sûr parce qu'il peut être pris dans un problème de rupture de la chaîne du crédit, ça j'ai vu 100 fois dans des correspondances, un acteur avec parfaite réputation, c'est un qui est parfaitement net, simplement il a fait un très bon engagement d'abonner, ce côté-là est défaillant et il perd son crédit. C'est quand même pas un système qui est absolument contrôlable.
Alors sur les 20 ans, il ne va jamais acheter à Paris une lettre de change d'un tireur qui fera faillite. Sur les 20 ans. sur les centaines de lettres qu'il a écrites au cours de sa carrière, jamais il fait un mauvais choix.
Donc il parle uniquement que des gens qui connaissent et qui les suivent.
Des gens qui connaissent les affaires.
Il a des correspondants.
Non, à Anvers. Donc à Anvers, il ne va jamais acquérir d'un tireur une lettre de change qui va faire faillite. C'est toujours un grand choix.
Et il parle plusieurs fois dans l'exposé de correspondants.
C'est par correspondance. Donc c'est par exemple, par recommandation. Donc il y a souvent, par exemple, son correspondant à Paris, dans la deuxième moitié des années 60, la firme Maillet-Aublin lui en était recommandée par son beau-fils à Anvers, qui lui est en correspondance depuis longtemps avec cette firme.
Et donc il change de correspondant sur la carrière.
Oui, il change de correspondant.
Il n'y a pas de conséquences sur ce type de pratique économique par exemple.
Non. Non,
sur le type de lettre de change qu'il a acquis, est-ce que c'est des gens, est-ce que c'est toujours les mêmes ou est-ce que c'est des gens différents?
C'est des gens différents.
On ne retrouve pas des noms qui reviennent sur ce
type de lettre. On les retrouve parce que devrait en avoir, je sais pas, une quarantaine, pas plus qu'une cinquantaine d'acteurs sur la place anversoise qui fait un commerce régulier avec Paris. Donc normalement, il les connaît.
Et tu as fait une étude, une étude de réseau justement, en prenant en compte tous les noms qui apparaissent et voir un peu quels sont les liens entre tous ces noms.
Oui, alors je peux relever les noms à partir des lettres de change.
Oui.
Voilà, donc j'ai les noms,
oui,
mais je n'ai pas l'identité de ces gens-là. Donc je relève, au cours de 20 ans, je relève 300-400 noms.
Oui.
C'est impossible de les identifier et de savoir ce qu'ils font, pourquoi ils tirent une telle lettre de change à un moment précis.
Ils parlent de Paris. Ben oui. Ils parlent de la place de Paris. Tu ne peux pas aller dans la Malacroyable. Tu sais que c'est un annuaire.
Oui, mais pour ces années-là, non.
Ah.
Pour ces années, des années 1650, je crois, mais là, dans la Malacroyable. Et écoute, c'est dans je crois que c'est...
Malacroyable.
Comment est-ce qu'il y a des noms qui apparaissent plus souvent que
d'autres? Oui,
il y a des noms différents pour ces temps.
Oui.
Tu peux faire la part des noms fréquents dans l'ensemble des noms, si je puis dire?
Oui, je pourrais faire ça, mais... qu'est-ce que ça me dirait?
Il y avait un article de Jamin sur Schubert et compagnie, là, où il montrait que...
Schubert. Je
crois qu'il y a
une autre affaire
il montrait que, en fait, je ne sais plus combien de chansons qui avaient été définies apparemment amoureusement, et il montrait qu'en réalité, il y avait 17 chansons qui faisaient certainement des interventions, et tous les autres avançaient une fois ou deux fois, mais qu'en fait, c'était toujours les mêmes 15 bus. Alors je me demandais si ça pourrait être structuré comme ça sur les lettres de change.
C'est sûr qu'il va préférer acquérir une lettre de change de quelqu'un qu'il connaît et qui pense qu'il est solide. D'ailleurs, le cours du change, donc un facteur qui va le déterminer, c'est la solidité du tireur. Donc quelqu'un qui pense qu'il est réputé solide va avoir un meilleur change que quelqu'un. Donc c'est un choix aussi qu'ils font. Parce que donc, lorsqu'il l'arbitrage acquiert une lettre de change, il peut donner son argent à quelqu'un réputé moins solide, mais il aura l'espérance d'en tirer un profit supérieur que s'il donne l'argent à quelqu'un réputé solide. Donc c'est un choix économique.
Justement, du coup, moi, je me posais la question, alors, sans vouloir sorte de bâton trou dans le sens de l'archaïsme ou quoi que ce soit, mais c'est les cours de chance qui sont reconstitués là, ça, correspond probablement au cours de change qu'on trouvait dans les comptabilités d'autres maisons si elles avaient été conservées ou il y a suffisamment peu de transactions pour qu'on puisse se dire qu'il y a des grosses variations selon les individus, les maisons impliquées, etc. C'est-à-dire là, quand on fait l'hypothèse que ça nous dit quelque chose de l'état général des marchés, c'est une hypothèse qu'on fait de toute façon parce qu'on n'a que cette belle course-là. Mais est-ce qu'on a des raisons raisonnables de croire en gros qu'il y avait d'autres grands négociants qui étaient là, pouvaient avoir conscience que le change il évoluait de telle façon en un moment où c'est très relatif aux maisons impliquées à chaque fois. Je m'en rends pas compte de la taille du marché au fond, c'est un peu ça la question quoi.
Ils notent les cours du change au bas de leur
lettre. D'accord. Il est trop beau en fait.
Ouais. Comme aujourd'hui, parfois il est visible le matin et puis le soir.
D'accord, ouais.
C'est comme aujourd'hui. Donc,
ouais, je ne savais pas pour
ça
ces endroits.